Hola, siempre y bienvenidos nuevamente, oyentes del micrófono de Alicia Perris. Après tant d'interviews à Pierre Assouline, Anne Berest, Nathan Ever, Richard Malka, Jules Hano, Daim Poli, Boris Cyrulnik ou Ivan Jablonka, nous avons eu une rencontre heureuse avec l'écrivain Colomb Schneck. Les digo a los oyentes de Radio Sefarad que del micrófono a Alicia Perris que tenemos una entrevista con Colomb Schneck después de muchas entrevistas que hemos hecho sobre temas muy a menudo franceses. Parfois, l'autodescription est meilleure que tout ce que les autres peuvent dire de nous. S'il vous plaît, pourriez-vous vous présenter, Colomb?
Je m'appelle Colomb Schneck, je suis née à Paris en 1966. Je suis une lectrice, j'ai toujours été une lectrice avant tout. J'ai commencé à écrire assez tard et si j'ai commencé à écrire, c'est parce que dans ma famille, il y avait tellement de silence, tellement de disparus, que je ne trouvais pas leur nom dans les livres que je lisais et il fallait que je les écrive.
Una traducción muy rápida, le pregunto, le digo que mejor a veces uno se autodefine que como lo, que la definición que dan los demás, que si le importaría presentarse. Entonces dice, soy Colomb Schneck, nací en el 66 en París y era lectora antes que escritora y tal vez porque vengo de una familia donde reinan mucho los silencios. En ce qui concerne le livre qui va se présenter à l'Institut français de Madrid, en réalité, je crois que c'est un recueil d'autres romans proposés en espagnol ensemble dans une traduction de Mercedes Corral, édition Lumen. Le digo que su libro que se presenta en el Instituto Francés de Madrid parece un corpus de otros que ha traducido Mercedes Corral para la editorial Lumen. Voilà, c'est ça, c'est un recueil.
Oui, c'est trois textes qui ont été écrits et publiés de façon différente en France, 17 ans.
Séparément.
Séparément, qui est le récit d'un avortement. La tendresse du crawl, qui est le récit d'une rupture amoureuse et de l'apprentissage que j'avais un corps à travers la natation. Et Deux petites bourgeoises, qui est l'histoire
d'une amitié.
C'est aussi l'histoire de sujets dont on ne parle pas, comme souvent. L'histoire de la mort de cette amie, de la maladie et d'une classe sociale qui est la bourgeoisie.
Le pregunto de su libro, de su compendio, de su corpus, que son realmente tres relatos que se presentan ahora juntos, pero que han sido libros que se escribieron por otra parte. Uno es sobre una interrupción voluntaria del embarazo, otra sobre una amistad con Eloís y otra sobre el sobre el crawl, el estilo de natación que lleva al descubrimiento del cuerpo, etc. ¿Cuáles son los grandes sujets de votre production?
C'est la recherche de ce qui a été effacé, de ce qui est caché. C'est aussi bien quand j'écris sur l'avortement. L'avortement, même si légalisé en France comme en Espagne, les femmes qui avortent et les hommes qui les accompagnent. On oublie toujours que quand on est enceinte, il y a aussi un homme. Quand on avorte, il y a aussi un homme qui passe par ce, traverse ce processus. On n'en parle pas comme si on avait commis une faute et qu'il fallait cacher. Donc, ou dans Deux petites bourgeoises, par exemple, l'histoire de l'amitié, la mort, mon amie d'enfance savait qu'elle allait mourir, qu'elle était atteinte d'une maladie incurable, et autour d'elle, on faisait semblant de croire qu'elle allait guérir, et on fait semblant de croire que la mort n'advient pas. Et la conversation sur cette mort, on ne veut pas la voir. Donc je dirais que tous mes livres ont en commun ça, d'écrire sur ce qu'on ne peut pas écrire et ce que l'on cache en tout cas.
En general, para empezar por atrás, Colombo nos dice que sus libros, los temas de sus libros, hablan de temas de los que normalmente no se hablan, como la cercana muerte irremediable de una amiga íntima, de un tema del que no se podía hablar en su momento, o una interrupción voluntaria del embarazo, donde en ocasiones también están implicados los hombres. Et les considérations épigénétiques, ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup.
Il m'est arrivé quelque chose qui, mais que je ne raconte pas dans ce livre, que je raconte dans mon dernier livre en français qui s'appelle Mensonge au paradis, qui était un livre sur mon enfance que j'ai passé en Suisse et que je pensais à l'abri de la Shoah et de la destruction. Et je me souviens d'avoir pris un train pour aller en Suisse. Quand je prends un train, je suis toujours un peu mal au ventre, je suis toujours un peu angoissée. Et là, j'étais très angoissée, j'avais très mal au ventre. Je me demandais pourquoi, qu'est-ce que... Je m'en voulais, je me trouvais vraiment... Et j'arrive à la gare et je me rends compte que c'était un train de la Deutsche Bahn, un train allemand, rouge et noir. Et je me suis assise dans ce train, c'était un peu irréel. Et j'ai pensé à une blague que faisait ma mère. Elle disait, quand on prend un train pour l'Allemagne, maintenant il faut payer son billet de train. Et j'avais mon billet de train, j'étais pas en 1942, mais en 2021 ou 2022, et j'étais rassurée. Mais ce que je trouvais intéressant, ce que je trouvais même mystérieux, c'est comment mon corps avait deviné que j'allais prendre un train allemand. Et en arrivant en Suisse, j'ai rencontré un ami médecin qui m'a expliqué que mon œil avait dû voir, sans l'enregistrer consciemment, que c'était un train allemand et que donc mon corps savait que c'était ce train. Non, mais autre mystère, pourquoi, alors que je suis née bien après la guerre, que je n'ai jamais souffert de ce que mes parents ont souffert, j'ai jamais dû me cacher parce que j'étais juive. Pourquoi prendre un train allemand pour moi restait quelque chose de dangereux. Et il m'a expliqué ce que c'était que l'épigénétique et qu'effectivement le stress se transmet de façon génétique. On le sait aujourd'hui. Voilà, donc en fait ce que j'ai compris c'est que je n'échapperai jamais à mon histoire familiale.
On continue l'histoire, voilà. D'une façon ou d'autre de la famille. Ouais. Et le pregunto así al pasar, pero me lo explica con mucho detalle, sobre las consideraciones epigenéticas, es decir, de qué manera la descendencia lleva la historia de sus propios descendientes. Entonces me cuenta que aparecen en uno de sus libros que fue a tomar un tren con destino a Alemania, bueno, que fue a tomar un tren con destino a Suiza para algunas de sus vacaciones y que el tren era alemán y que entonces ella de alguna, su cuerpo de alguna manera sabía esto y conectó, digamos, con la historia de su familia por el tema de la Shoah, con los trenes, los transportes a la muerte, y que su madre, haciendo una broma, decía que ahora hay que pagar los trenes alemanes, y que no, en un momento, hasta que alguien comentó lo de la epigenética, no entendió este malestar, a pesar de que todo, de que en principio todo debería haber funcionado muy bien. ¿Quels auteurs de la literatura francesa o universal han influido votre œuvre? À part Annie Ernaux.
Ils sont nombreux parce que je suis d'abord une lectrice.
Bon, en général. les plus importants.
Le plus important, je dirais que c'est bizarrement un auteur que j'ai mis des années à lire et que je viens de terminer, c'est Marcel Proust, La recherche du temps perdu. Je pense que ça transforme la façon dont je vois l'existence aujourd'hui. Je pense que ça fait, j'espère qu'en tout cas sera fait de moi un meilleur écrivain capable de davantage deviner ce qu'on cache, puisque mon obsession c'était d'écrire sur ce qu'on cache et ce dont on a honte, et Marcel Proust est extraordinaire pour aller les rechercher,
dévoiler secrets.
Oui, les secrets de chacun, les blessures, les mauvaises pensées,
les manques.
Voilà. Et donc Philippe Roth aussi, parce que
Le pregunto por los autores importantes y dice que como era lectora, pues hay muchos, le digo que me diga los más. Y habla de Marcel Proust, que le llevó muchos años terminar la recherche en búsqueda del tiempo perdido y que se relaciona con Proust en el sentido de que él también buscaba los secretos, los misterios y también acaba de lanzar su primera frase sobre Philip Roth. C'est tout à fait différent, non? Es muy distinto.
C'est très différent et en même temps bizarrement deux auteurs juifs. Mais non, je dirais pas que chez Philip Roth, pareil, il y a un souci obsessionnel d'aller chercher ce qui se passe derrière les apparences. De raconter les gens tels qu'ils sont vraiment et pas seulement la façon dont ils aimeraient qu'on les perçoive et qu'ils se représentent. D'aller chercher derrière la personne sociale et d'aller chercher l'intimité, ce qu'on cache, dont on a honte, sur notre sexualité par exemple, sur nos désirs. Donc je vois beaucoup de choses en commun entre Proust et Philip Roth. Et puis, moi, ce que je pense que j'ai aimé chez Roth, quand j'ai lu Adolescente, c'est que c'était une histoire de famille juive comme la mienne, où on parlait de constipation, de l'obsession pour certains sujets, une inquiétude commune. Mais peut-être que c'était une famille juive sans la Shoah.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis. Et donc, il y avait quelque chose là-bas, un humour qu'on avait perdu.
Oui.
Il y avait une famille juive.
Ashkenazi.
Oui.
Ashkenazi.
Voilà. Une famille juive moins douloureuse que la mienne, je dirais.
Ella piensa que finalmente no son tan distintos Roth y Marcel Proust y que los dos son judíos y que además donde ella se siente vinculada es en esa búsqueda de lo que está prohibido, de lo que no se ve, de la sexualidad y que bueno, esto es fundamentalmente y que a pesar de que Philip Roth proviene de una familia, estaba en Estados Unidos que no tienen una historia con la Shoah. ¿Quelle influence sur les paradigmes de classe pour vous comme femme, comme personne, comme auteur? Ce qu'on appelait avant la gauche caviar, blibli, les bobos, etc.
Je trouve ça très important de parler d'argent. C'est pas un sujet de littérature.
Argent.
De l'argent.
Ah, oh, d'accord.
L'argent. Hein.
Comme Lucchini.
Oui.
Non, il a.
Je viens d'une classe sociale, disons de la bourgeoisie intellectuelle parisienne, donc privilégiée, je dirais. J'étais élevée dans une école privée à Paris, dans le centre de Paris. Et je ne voulais pas masquer ça. Je voulais écrire d'où je viens. Je sais que c'est... Ben, en France, je ne sais pas si c'est le cas en Espagne, mais être un bourgeois, avoir un esprit bourgeois, c'est insultant. Hein. Un bourgeois, c'est quelqu'un de vulgaire, de commun, de banal, d'étriqué. Une bourgeoise, c'est encore pire, c'est une femme stupide, c'est une femme frigide.
Potiche.
Une potiche. Ouais. Et une petite bourgeoise, alors c'est carrément c'est ce qu'il y a de pire pour tout le monde. Et je trouvais ça assez drôle de me décrire comme ça, en juste taille petite, donc je suis petite bourgeoise. Mais alors, tout le monde n'a pas trouvé ça drôle. Et je vois que ça reste un sujet en France, je ne sais pas si ça va être le cas en Espagne, mais en France, ça reste quelque chose de comme assez dégoûtant. Mais la plupart des écrivains sont des bourgeois, et en tout cas, même ceux qui viennent d'autres classes sociales deviennent des bourgeois. Mais à les lire, pas du tout. Mais voilà, je trouve ça bien d'écrire sur, encore une fois, sur ce qu'on peut cacher.
Le pregunto por los paradigmas sociales de clases, como mujer, como persona, como autora, lo que se llamaba en tiempos la gauche caviar, blin blin, los bohemios burgueses en Francia, un poco con cierta nonchalance y un cierto mépris, con un cierto bueno. Y ella dice que es toda una cuestión de dinero y que en el fondo nunca le interesó no presentarse como una persona de clase privilegiada, burguesa, y que siempre, y que además los escritores se acaban convirtiéndose en burgueses, y que tanto en Francia como en España, pues, y en España mucho, es absolutamente despectivo llamar a alguien burgués, más despectivo llamar burguesa a una mujer, y todavía peor, petite bourgeoise, oui.
Dans la recherche, dans Proust, pas une classe sociale n'échappe à son regard. Hein. Peut-être que les Verdurins sont ceux qui sont le plus moqués, les bourgeois, mais il montre aussi une générosité chez ces Verdurins, cachée d'ailleurs aux autres, envers un de leurs anciens habitués, qui vont aider financièrement, mais ils ne veulent pas que ça se sache. Voilà, chez Proust, encore une fois, par exemple, les domestiques sont aussi et sont décrits avec autant d'affection que Françoise de vérité sur aussi leurs propres bêtises qu'on a en chacun. Il y a eu une égalité de traitement de tous les êtres humains, quelle que soit leur classe sociale. Mais plus ils sont hauts, plus le démontage est intéressant.
Dice que Proust, por ejemplo, describe muy bien las clases sociales, las clases burguesas, pero no solo, sino también, por ejemplo, les Verdurins, y dice que los pinta incluso como teniendo siendo generosos, teniendo buenas costumbres, y también a la clase del servicio, digamos, de los las personas que atienden a estas clases más pudientes, y de alguna manera a todos los mira con una cierta con un cierto afecto, digamos, ¿no? Lobbes a écrit à propos de l'un de vos livres, un livre, je cite, un livre qui triomphe, une histoire de reconquête. Vous êtes d'accord?
C'était sur quel livre?
Je crois que les paradis les mensonges du paradis,
le mensonge du paradis, le dernier livre.
Oui.
Je sais pas, je peux pas commenter. C'est difficile pour moi de commenter, de répondre à leur place.
Le doy una cita, un libro que triunfa es una historia de reconquista, en relación a uno de sus libros, publicado en Lobbes, y me dice que, bueno, que no sabría francamente qué comentar. Ouais. Vous avez dit dans une interview dans l'émission Essentielle, mes parents sont morts et bien morts.
Oui.
Ella dijo en una entrevista televisiva en el programa Emisión, Esencial, que sus padres estaban muertos y bien muertos. ¿Es que vous pensez vraiment qu'on peut définitivement enterrer ou tuer les parents, comme disent les psychanalystes? Le digo, si uno puede enterrar o matar de verdad, como dicen los psicoanalistas, a los padres.
Je vivais dans une sorte d'esquive de la réalité où mon père allait revenir m'aider, où était toujours là à me protéger, où vous savez, c'est toutes ces phrases de consolation qu'on dit dans les enterrements, les morts sont pas morts, etc. Mais les morts sont morts, ils ne reviennent pas, je le sais. Leur histoire vit toujours en nous, ils nous ont transmis. Vous êtes psychanalyste, donc vous savez que voilà, on vit avec ce qu'on nous a transmis. Mais les morts ne reviendront pas. Non, il ne faut pas se border dans l'illusion qu'ils vont venir nous border d'entre lits un jour, qu'ils vont venir nous consoler. Ils sont morts, ils sont bien morts. Et de vivre, de croire, d'être dans une espèce d'illusion, d'esquive la réalité en disant ils seront toujours là. Je crois que ce n'est pas, que c'est finalement une idée assez destructrice qui vous empêche d'être entièrement en vie.
Sobre la pregunta que acabo de traducir antes, si la muerte de los padres, dice que los muertos efectivamente, y se reafirma, están siempre muertos, que es una ilusión y que es muy destructivo considerar que están siempre ahí, aunque queda su historia y queda lo que nos han dejado, y que yo como psicóloga lo debo saber. Votre découverte du corps de plaisir du contact des loups, la tendresse du crawl. À 50 ans, on surprend parce qu'on raconte toujours l'adolescence comme le paradis des découvertes sensuelles et sexuelles. Donc, le digo que sorprende que a los 50 años en su libro, en uno de estos libros cuyo corpus publica ahora Lumen, hable del descubrimiento del cuerpo con 50 años gracias al agua, a la natación.
Oui, je raconte à 17 ans que j'avais une liberté sexuelle et je revenais pas qu'une adolescente et la liberté que j'ai et puis l'accès à la contraception, etc. J'avais l'impression d'être l'adolescente la plus libre du monde, disons. Que dans l'histoire de nos civilisations, les jeunes adolescentes étaient quand même corsetées. Elles devaient rester vierges jusqu'au mariage. Et je suis tombée enceinte et j'ai un sentiment de grande colère, de trahison, que mon corps me trahissait. Que j'étais pas libre, que j'étais liée à cet utérus et que c'était la fin de la liberté sexuelle. Et j'ai mis des années à retrouver cette liberté et c'est peut-être grâce à la ménopause. Effectivement, on a le sentiment que les femmes de 50 ans, finalement, leur corps est moins désirable, qu'on va les mettre de côté. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Il me semble qu'au contraire, pour moi, c'est à 50 ans que j'ai découvert que j'avais un corps et que qu'il était le temps que je l'utilise.
Le pregunto entonces por si el todo el mundo considera que la adolescencia es el momento de las mayores experiencias sexuales y sensuales, ¿cómo es que descubre su cuerpo a los 50? Y me dice que ella en su familia tenía libertad sexual, que él había contracepción, pero que de alguna manera al quedarse embarazada descubrió que no esa libertad no existía y que bueno, le llevó mucho tiempo luego recuperar esa relación con el cuerpo que justamente llega hacia los 50 con la menopausia. Peut-être le manque d'affection ou la discipline de l'école alsacienne ou vos vacances exigeantes à la Suisse allemande vous ont trop marqué dans ce sens. Le digo, si a lo mejor en el sentido de la vivencia del cuerpo, la escuela alsaciana o las vacaciones tan exigentes que tenía en Suiza, donde se trabajaba, se subía a la montaña, l'hayan marcado también.
Dans quel sens vous voulez dire que...
Du corps vécu, c'est-à-dire, oui. Pas seulement du point de vue sexuel.
Ce que m'a appris mon enfance dans une école libérale, dans un milieu, voilà ce que je raconte dans De Petites Bourgeoises, c'est une sorte d'illusion, c'est que d'ailleurs, j'avais le corps qui était l'égal des garçons, que j'avais une égalité entre... Et la vie m'a appris le contraire, que j'avais un utérus, que j'avais pas. Cette égalité n'était qu'en fait c'était qu'un slogan. Ce que j'ai appris en Suisse, ce que je raconte dans ce livre Mensonge au paradis, c'est que s'il y avait une exigence, voilà, on s'occupait de notre corps. C'est-à-dire que on marchait dans la montagne, et c'est quelque chose dans lequel j'avais à. J'éprouvais beaucoup de plaisir, une discipline qui restait ancrée dans mon corps. Je pense que si aujourd'hui je continue à avancer, je me souviens qu'on nous répétait, il ne faut pas s'arrêter sinon ça coupe les jambes. Et donc cette phrase, il ne faut pas s'arrêter, et je pense que c'est ancré en moi. Je suis quelqu'un qui ne s'arrête peu, qui continue à avancer, quelles que soient les difficultés. Et donc c'était un apprentissage qui m'a donné beaucoup de force.
Dice que si uno se queda quieto está muerto, para traducirlo en un español aceptable, la expresión en francés es otra cosa, y seguramente su educación en Suiza, había que caminar por la montaña, era muy exigente, le dio esa fuerza que le permite hoy en día seguir adelante, esa disciplina. Une merveilleuse photo de vos fesses à dédier spécialement à Jeanne Moche. À 52 ans, vous anime à continuer à vous battre, à atteindre finalement le bonheur. C'est le corps, encore une fois. Le digo que ella dedicó una maravillosa foto de sus muslos à Jeanne Moche, que había tenido palabras de indiferencia y de desprecio por las mujeres a partir de los 50. Le digo si es siempre el cuerpo el que se revient, le corps, le rapport avec le corps et avec les autres.
Oui, oui. Je trouve que c'était important de répondre à quelqu'un, donc cet écrivain français qui s'appelle Yann Moix, qui disait que le corps des femmes de 50 ans était dégoûtant, que c'était faux. Voilà, et le seul moyen de le montrer, c'est qu'effectivement, comme je nage beaucoup, j'ai les fesses musclées, donc j'ai pas réfléchi, et je me dis, voilà, c'est un moyen de répondre à ce que tu rates. Il y a cette injonction universelle, effectivement, qu'un corps de femme parte à un certain âge, à partir du moment où il n'est plus en capacité de se reproduire, qu'il ne se réduit pas à un utérus qui fonctionne, ne serait plus désirable. Et je lutte contre cette idée.
Te digo lo de la foto de los muslos, con esos muslos que uno puede seguir peleando para alcanzar finalmente la felicidad, y que siempre se trata del cuerpo. Entonces, ella me dice que Jeanne Moix había hecho unas declaraciones que a partir de los 50 años o de la menopausia, el cuerpo de una mujer ya no es deseable, y que a ella le parece injusto, y que por eso replicó con esta foto. ¿Vos música preferida?
La música preferida. J'aime beaucoup Stevie Wonder pour la gaieté, je pense, et qu'elle est aussi comme de la mélancolie. J'aime Bach, les variations Goldberg. Voilà, je dirais ça. Mais enfin, il y a beaucoup de choses que j'aime, que j'écoute. Oui. Je suis plus une lectrice que quelqu'un qui écoute de la musique. J'écoute de la musique, mais je suis d'abord quelqu'un qui lit.
Dice que le pregunto cuál es su música favorita. Dice que, por supuesto, no dice por supuesto, pero le da mucha importancia a Bach, las variaciones Goldberg, y dice que se queda pensando, y que de todas maneras ella es más una lectora que una melómana, digamos, practicante. ¿Vous continuez à habiter des vêtements de marque, comme avant? Le digo, si sigue usando ropa de marca, es un tema que vuelve, ça revient, les
oui,
vêtements.
Mais en fait, parler de marque, de vêtements, je le fais beaucoup dans De Petites Bourgeois, je pense. C'est aussi de moyen, c'est un marqueur social.
Oui.
Cette marque, je cite, je crois, des Agnès B, où c'est un marqueur social d'un certain milieu, oui, de la gauche intellectuelle, ce qu'on appelle la gauche caviar. C'est pas une marque, disons, de luxe, mais qui montrait un espèce de luxe un petit peu caché, un peu
discret.
Et je pense que c'est, voilà, c'était un, parler des marques de vêtements, pareil, c'est pas un grand sujet de littérature. Encore que je vois, pour revenir à Philippe Roth ou Marcel Proust, il y a des descriptions très précises des vêtements portés par leurs personnages. Et donc, parler de ces marques, c'est un moyen, voilà, de marquer socialement ces gens, de la façon dont ils se représentent au monde. Je pense que les vêtements, la mode, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui n'a rien de superficiel. Et c'est un sujet sur lequel je lis. Et je trouve qu'il manque des écritures, des livres, disons, sérieux, entre guillemets.
Le pregunto si sigue vistiendo ropas de marca como antes, y me dice que, bueno, Agnès B, y que le interesa muchísimo la moda, que no hay escritos suficientemente serios sobre el tema, que desde luego cómo uno se viste es una marca, otro indicio social, que eso se encuentra en Philip Roth, que se encuentra en Marcel Proust, y que desde luego, sí, se encuentra a menudo en sus obras, sobre todo en las pequeñas burguesas, el tema de la vestimenta. ¿Qué es que vos pensez des aspects plus sociopolitiques de la vie, comme les manifs des agriculteurs, juste maintenant, l'urgence climatique ou les guerres en Ukraine et les Moyen-Orient? Le pregunto por temas más sociopolíticos, las manifestaciones ahora mismo de los agricultores, la urgencia climática o las guerras en Ucrania y Oriente Medio.
Je revenais encore à Proust. Proust disait qu'une œuvre d'art dans laquelle il y avait un message politique, c'était comme une œuvre d'art sur laquelle on laissait une étiquette. Ce que je pense de la politique ou et tout ce que je pense du pouvoir est dans mes livres, mais toujours de façon clandestine. Donc si vous lisez mes livres, vous aurez les réponses.
Ella dice que están todos estos grandes temas, no son evidentes en su obra y que están colocados de una manera clandestina, no evidente, y que hay que leer sus libros para darse cuenta. ¿Qué representa para vos la Francia como país, como historia, como futuro? ¿Qué representa Francia para ella como país, como historia y como futuro?
Je peux pas répondre.
Non, parce que vous êtes en Espagne. C'est un peu une question obligatoire. Le digo que es un poco una pregunta obligatoria porque estamos en España y se presenta su libro en español.
Je suis française par la littérature française. Je pense que la littérature française qui a fait de moi une française, donc je peux vous parler de littérature française. Moi, c'est une littérature très importante, qui m'a formée, littérature du 19e, je pense à Balzac ou Maupassant, c'est grâce à eux que je suis devenue française, cette langue très classique, c'est l'importance donnée aux personnages, à leurs sentiments, c'est eux qui m'ont construite comme française, et je crois qu'aujourd'hui cette littérature elle est toujours très, très présente, très, très vivante.
Le pregunto qué representa Francia y entonces me habla sobre todo los escritores del siglo XIX como Balzac y me dice que bueno, que están muy presentes. ¿Hubo cursos de avenida? ¿Proyectos de futuro?
De continuar a leer y a escribir.
Continuar a leer y a escribir. ¿Vos podrías ajouter otra cosa para decir adiós al micrófono a Alicia Perry?
Merci por votre question y j'espère une autre fois. Merci.
Agradece las preguntas y vernos otra vez. Un plaisir et un honneur. Et merci infiniment, Colombe Schneck, pour votre temps et votre patience. Beaucoup de succès en Espagne pour ce livre d'ailleurs et ailleurs, bien sûr, à la prochaine. Agradecemos a Colombe Schneck su tiempo y su paciencia y le deseamos muchos éxitos. Y quedan, ya saben, convocados para un próximo micrófono. Au revoir.